Après son indépendance le 30 juin 1960, la République démocratique du Congo va connaître plusieurs années d'instabilité politique et en 1965, quand Mobutu Sese Seko accède au pouvoir, le pays vivra une stabilité politique et économique jusqu'à la fin des années 90, puis la RDC replongera encore dans une impasse politique, diplomatique et économique pendant une vingtaine d'années. C'est en 2021 que le pays a pu à nouveau accéder notamment à la présidence tournante de l'Union africaine. Quelle analyse faire de la place que la République démocratique du Congo a occupée en Afrique et dans le monde en 61 ans d'indépendance? Quel positionnement va-t-elle avoir à l'avenir et que faire pour occuper une place de choix dans le concert des nations? C'est l'émission de ce soir et pour en parler, nous accueillons un panel totalement d'universitaires. Moïla Chiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Moïla Chiembe, bonsoir.
Bonsoir.
Mais aussi Bob Kabamba, bonsoir.
Bonsoir.
Professeur à l'Université de Liège en Belgique, mais également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Et enfin, Ntumba Luaba, professeur d'université et coordonnateur du panel d'accompagnement du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'Union africaine. Ntumba Luaba, bonsoir.
Bonsoir.
À tous, bienvenue dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez les 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiokapi.net.
C'est aujourd'hui 30 juin, la date anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo. Le pays totalise 61 ans jour pour jour depuis cette accession à la souveraineté nationale et internationale. Cette année, comme en 2020, l'événement ne sera pas célébré avec le faste qu'il aurait pu mériter à cause sans doute du contexte de la guerre et de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri, ainsi que de celui de la pandémie du coronavirus entrée depuis fin mai dans une troisième vague particulièrement virulente. Mais comment la RDC a-t-elle accédé à sa souveraineté internationale il y a 61 ans? Honoré Missenga nous rafraîchit la mémoire.
La fin de la Grande Guerre en 1945 ouvre au Congo belge l'ère des cercles dévolués qui entraînent notamment la naissance d'une presse embryonnaire et des associations culturelles et sociales. 1955, c'est le premier déclic avec le plan Bilsen qui défend la thèse d'une émancipation politique du Congo belge dans un délai de 30 ans. 1956, sous l'influence de l'Église catholique, un groupe de jeunes congolais publie le manifeste de la conscience africaine, une publication qui sera suivie de celle d'une association culturelle des Bakongo dirigée par un ancien séminariste, Joseph Kasavubu, qui rejette les 30 ans du plan Bilsen et prône une indépendance immédiate sur fond du fédéralisme. La dynamique s'accélère. En 1957, les premières élections communales sont organisées. 1958, au moins deux nouveaux ingrédients s'ajoutent, la naissance du MNC, Mouvement National Congolais de Patrice Lumumba, ainsi que l'exposition universelle de Bruxelles. Les 4 et 5 janvier 1959, des émeutes éclatent à Léopoldville. Le 13 janvier, le roi belge reconnaît le droit des Congolais à l'indépendance. Et une année plus tard, s'ouvre à Bruxelles la table ronde où un compromis est trouvé avec l'autorité coloniale sur une date, le 30 juin 1960.
Moïla Chiembe, professeur d'université et directeur de l'Institut panafricain des géopolitiques de Nancy en France. Ce que vous venez d'entendre est, j'imagine, désormais comme une chanson pour vous. Vous connaissez par cœur l'histoire de cette indépendance et on a l'habitude d'entendre que la République démocratique du Congo est un joyau. Pouvez-vous d'abord nous dire si c'est vrai ce mythe d'un pays exceptionnel et ensuite, est-ce que la RDC 61 ans après a-t-elle eu le temps de justifier cette situation privilégiée en Afrique ou dans le monde?
Oui, permettez que je salue les collègues que vous avez bien voulu inviter à ce débat. Et après avoir entendu les éléments introductifs de la personne à qui vous avez accordé la parole en premier, au lieu de commencer par l'année 1945, comme il a démarré jusque le plan Van Bilsen et l'indépendance, je voudrais juste reculer un peu pour dire que la République démocratique du Congo, le pays que nous connaissons aujourd'hui et que nous aimons, n'est que le succédané de l'État indépendant du Congo, créé en 1885 à Berlin, par 14 puissances de l'époque. Il faut le dire. Pourquoi? Parce que nous sommes sur la question de la diplomatie. Ce pays, la République démocratique du Congo, a hérité de l'État indépendant du Congo, de la diplomatie de la porte ouverte. C'est-à-dire, lorsque les 14 puissances réunies à Berlin créent ce qu'on peut considérer comme un champ expérimental d'un État, espace international ou mondial, si on utilise les termes d'aujourd'hui, ces puissances qui l'ont créé ont pris la résolution d'utiliser cet espace au meilleur des intérêts de chacun des partenaires. Donc, la diplomatie de la porte ouverte consistait à dire tous les pays qui ont signé l'acte de Berlin utiliseront cet espace politique nouveau à titre expérimental pour la liberté de navigation, pour la liberté d'entreprendre, c'est-à-dire la libre circulation des biens et des services, etc., pour parler le langage d'aujourd'hui, et la neutralité. Donc, à partir de là, ce pays devrait normalement, sur base de cet acte final de Berlin, être ouvert à l'ensemble des pays signataires et ceux qui devraient adhérer. Aucun État n'avait la primauté pour tirer à son profit et les ressources et les biens qui résulteraient éventuellement de ce pays. Or, quelques années plus tard, le roi de Belge a abusé de ce principe qui était le principe cardinal, c'est-à-dire en faisant de l'État indépendant du Congo reconnu mondialement par les 14 pays signataires, en faisant une colonie de la Belgique en 1918, il y a eu rupture de l'idée d'un État ouvert par sa diplomatie à l'ensemble du monde de l'époque qu'il avait créé.
Pour ça,
dans les enjeux de la Belgique, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, la dépendance de la Belgique vis-à-vis des États-Unis et d'autres puissances alliées qui ont libéré l'Europe, brusquement, le sort de la colonie belge, le Congo, a basculé dans le rapport de force entre la Belgique et ses alliés.
Le professeur
fait lui-même le choix d'appartenir au camp occidental. La diplomatie congolaise, de fait, est liée à cette appartenance de la Belgique au monde occidental, si nous généralisons, et ce paradoxe diplomatique continue à jouer depuis l'indépendance, depuis le régime de Mobutu, depuis le régime de Kabila père et de Kabila fils. Je pense que c'est probablement là où il faut rechercher les éléments de cette diplomatie dont vous nous demandez de discuter, et bien sûr le pouvoir actuel du président Tshisekedi, bien sûr 2 ans ce n'est pas beaucoup pour tirer les conséquences, mais on peut peut-être en parler lorsque l'occasion sera donnée.
Professeur Moïra Tshiembé, excusez-nous, mais déjà on a l'habitude d'écouter que le roi de Belge a dupé tout le monde, c'est un peu aussi ce que vous avez dit. Comment cela a-t-il été possible quand on sait que les autres nations étaient déjà à ce moment-là assez développées, à certains beaucoup plus que la Belgique, et éveillé, et l'objectif c'était justement la neutralité et l'espace libre à tous. Comment est-ce que, très rapidement, hein, en très peu de mots, comment est-ce que le roi de Belge a-t-il pu réaliser cette pichenette? Et puis, de manière générale, qu'est-ce qui a empêché les Congolais, comme vous l'avez dit, année après année, de pouvoir mettre à profit tous les avantages qu'on chante pour la République démocratique du Congo?
Ben, pour dire des mots sur le roi des Belges, le roi des Belges, contrairement à ce qu'on raconte souvent, le roi des Belges n'a pas été l'initiateur de la problématique de l'État indépendant du Congo. Il a été désigné parce que c'est la seule personne à l'époque qui savait ce que c'était que le bassin du Congo à partir des explorateurs qu'il finançait comme beaucoup de gens à l'époque, c'est-à-dire il finançait les œuvres des explorateurs pour aller voir dans le monde inconnu qu'est-ce qu'il y a. Donc, à partir des explorateurs, il est le seul à savoir qu'est-ce que c'était. Et lorsqu'on s'est réunis à Berlin pour décider, l'objectif était d'éviter l'affrontement entre, d'une part, la France, d'autre part, le Portugal et l'Angleterre, les trois pays qui se disputaient le bout de, comment dire, les frontières qu'il fallait tracer pour séparer ce qui est devenu aujourd'hui la République démocratique du Congo, l'Angola et une partie aujourd'hui du Zimbabwe et au-delà de la Rhodésie. Donc, il connaissait, et c'est à lui qui a été confié ce pouvoir de diriger cet état expérimental momentanément, en attendant de voir est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'on peut avoir comme richesse là-dedans, est-ce qu'il y a des êtres humains, qu'est-ce qu'il y a comme ressources. Personne ne savait qu'est-ce que c'était le bassin du Congo, qu'est-ce qu'il y avait dedans. D'abord, la préoccupation majeure était de savoir si le Nil vient de là. Où est la source du Nil? Bon, on ne savait pas d'où venait le Nil. Même le Congo, on ne savait pas quelle était sa source. Donc, tout le monde s'interrogeait, on ne savait pas. Et lui, il avait des informations précises parce qu'il avait des explorateurs qui finançaient des pays comme aujourd'hui le business qui consiste à dire bon, si quelqu'un finance des hommes ou des femmes qui font telle ou telle chose, il est probablement le seul à savoir ce qu'il en est. C'était ça, prioritairement, et non pas... Bien sûr qu'il y a eu des velléités d'avoir une colonie pour la Belgique, c'est connu, mais il n'a pas eu l'autorité de diriger l'État indépendant du Congo par le fait qu'il avait l'intention lui-même d'avoir une colonie. Mais pour ce qui concerne les richesses, évidemment, la position de ce nouvel État à cheval sur l'Équateur, lorsqu'on a tracé même d'une manière plus ou moins fictive les frontières de l'État indépendant du Congo, au fil du temps, on s'est rendu compte ben, voilà, c'est un grand pays qui a beaucoup de ressources naturelles, le sol, le sous-sol, qui a été exploité à partir des années 1910 avec les minerais du Katanga, etc. Mais au départ, on ne savait pas ce que c'était. Alors, à partir de là, on s'est rendu compte que c'est un pays qui a deux ressources importantes, qui a une position géopolitique importante, et à partir de là, tout le monde, notamment la Belgique, qui en a récupérer l'héritage par l'Épaule II en 1908 et les autres puissances, notamment les États-Unis avec la guerre, la première et surtout la deuxième, lorsqu'il fallait fabriquer la bombe atomique, c'est Shinko Lobo qui a servi de référentiel pour la ressource qui a permis aux États-Unis de fabriquer la bombe atomique. Donc, pour tous ces faits-là, le pays qu'on ne connaissait pas matériellement, mais dont on s'imaginait la configuration à partir de Berlin, est devenu la République démocratique du Congo aujourd'hui, avec son immensité territoriale, avec la multitude de ce qu'elle peut représenter comme ressources du sol et du sous-sol, etc. Mais ça, c'est la cartographie de la République démocratique du Congo. Est-ce que ça peut jouer sur ta diplomatie? Probablement. Ça dépend de ce que les Congolais auraient pu en faire ou annoncer. Bah, par exemple, la période de Mobutu, la période de Kabila fils, Kabila père et Kabila fils, et aujourd'hui la période qui s'ouvre pour le président Tshisekedi.
Merci Moïla Tshiembe. Bob Kabamba, professeur à l'université de Liège en Belgique, mais également coordonnateur de la cellule d'appui politologique en Afrique centrale et aux Caraïbes. Professeur, vous allez l'entendre certainement de la bouche même des auditeurs tout à l'heure. Généralement, quand on fait le bilan de plusieurs années des indépendances de la RDC et même aujourd'hui 61e anniversaire, le bilan est assez négatif quant au potentiel que venait d'indiquer d'ailleurs votre collègue Moïla Tshiembe et d'autres observateurs. Le bilan est régulièrement négatif. Pour vous, 61 ans après, la République démocratique du Congo a selon vous, échoué de jouer son vrai rôle. Pour quelles raisons?
Bonjour donc aux auditeurs de Radio Capi et bonjour à mes collègues Kiembe et Tumbalwaba. Donc c'est une question très intéressante que vous posez et que j'imagine que la plupart des auditeurs et tout le monde n'arrête pas de se poser. Je pense que l'introduction avait déjà été faite par mon collègue Kiembe quand il explique effectivement que quand l'État indépendant du Congo est créé, en fait c'est un État extraverti, c'est-à-dire que comme il l'a expliqué, beaucoup de gens peuvent venir, tout le monde, tous ceux qui veulent peuvent venir investir dans ce pays, faire du commerce, et s'y établir. Et donc, dès le départ, ça a été, en fait, l'État indépendant a été créé dans cet objectif-là. Mais maintenant, lorsque la Belgique réussit à arracher l'État indépendant du Congo à Léopold II, la Belgique ne va pas, en fait, mettre fin à ce système qui avait été à l'origine, donc, de la création de l'État indépendant du Congo. La Belgique, elle aussi, va continuer à avoir cette expression, cette extraction, donc avoir toujours l'économie congolaise en mode extractif, c'est-à-dire grosso modo, le Congo est une réserve de ressources naturelles et ces réserves de ressources naturelles doivent alimenter donc le marché mondial. Et pendant toute la période de la colonisation, ça n'a pas beaucoup changé, ça a été essentiellement cela. Et d'ailleurs, tout ce qu'on veut essayer par exemple de montrer que la Belgique a fait de bien au Congo, mais ce qu'elle a fait de bien au Congo, c'était toujours dans l'objectif d'aller vers l'extérieur et rarement vers l'intérieur. Les minerais, les produits agricoles, café, thé, cacao, quinquina, caoutchouc, tous ces produits-là, c'est pour alimenter donc le marché mondial. Et lorsque, à l'indépendance, nous arrivons à l'indépendance, les Congolais réussissent à racheter, aussi à arracher l'indépendance aux Belges, eh bien le système n'a pas changé. Le système est resté celui-là, toujours en termes de continuer à fournir le marché international. Et ce marché international, sans nécessairement arriver à mettre en place des politiques pour créer justement une plus-value directement au Congo et pour les Congolais. Malheureusement, cette politique n'a jamais été mise en place, cette politique n'a jamais vu le jour, et le Congo est resté donc dans ce mode de fonctionnement tourné essentiellement vers l'extérieur. Et alors, lorsque vous connaissez le système international, si vous n'êtes que fournisseur de matières premières et des ressources naturelles, bien entendu, vous allez le rester dans ce que toute une série d'auteurs appellent, là, par exemple, dans la théorie de la dépendance, c'est-à-dire que, le Congo va rester la périphérie, c'est-à-dire, grosso modo, fournir les matières premières au niveau international et recevoir les produits finis. Et le Congo est resté dans ce rôle-là.
Bob Kabamba,
c'est ça, en fait, qui est à l'origine.
Bob Kabamba, est-ce que ce n'est pas un prétexte que les élites congolaises et les dirigeants congolais se plaisent à répéter chaque année pour fuir leurs responsabilités? Parce que Bob Kabamba, lorsqu'on compare aussi les autres pays africains qui ont été des colonies, on voit que certains se sont bien émancipés, se sont développés de manière concrète. On peut citer l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Ghana qui sont des anciennes des colonies peut-être anglo-saxonne, peut-être ceci peut justifier cela, mais vous le direz dans votre analyse. Mais il y a aussi des colonies francophones comme le Sénégal et même les anciennes colonies au même titre que la RDC qui ont été dirigées par la Belgique, le Burundi et le Rwanda. Tous ceux que je viens de citer sont de loin aujourd'hui beaucoup plus développés que la République démocratique du Congo, alors qu'ils étaient dans la même situation de colonies, de territoires ayant des richesses à exploiter. Et pourquoi eux arrivent à s'en sortir et pas la RDC?
Exactement. Là, vous avez pointé du doigt le problème. C'est-à-dire que là, il y a une part de responsabilité. Là, vous devez expliquer pourquoi nous en sommes là. Et maintenant, analyser maintenant les causes, oui, vous avez tout à fait raison, c'est qu'il y a une part de responsabilité de l'homme politique congolais qui n'a pas réussi justement à inverser la tendance. Tous les exemples que vous venez de me citer, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment de l'histoire, ils ont réussi à pouvoir inverser la tendance. Je veux parler du Rwanda, je veux parler de d'autres pays qui ont réussi à inverser la tendance, c'est-à-dire grosso modo, à essayer de pouvoir créer ce qui leur manque. Créer ce qui leur manque, c'est-à-dire faire une valeur ajoutée. Et nous avons d'ailleurs un exemple tout récent où on vient de signer un accord entre le Congo et le Rwanda par rapport à la question de l'or, puisque tout simplement le Rwanda
vient de créer sur son sol des unités de transformation de cet or qui vient du Congo. Malheureusement, au niveau congolais, il n'y a pas ça. Et comme il n'y a pas ça, nous restons dans cette féodalité, nous restons dans la périphérie par rapport au centre qui continue à avoir besoin de ces ressources. Et là, il est évident que c'est une part de responsabilité évidente pour le politique congolais qui n'a pas réussi à essayer de créer cette dynamique propre au Congo. Autre exemple aussi pour illustrer, on peut faire par exemple manger le poisson qui vient qui est importé au Congo, c'est de manger le poisson congolais, le poulet idem, etc., etc., etc. Et donc clairement, on est dans cette logique-là, et au niveau congolais, on n'a pas réussi à pouvoir inverser cette tendance. Pourquoi on n'a pas réussi à inverser cette tendance? Parce que tout simplement, les dirigeants congolais se complaisent dans cette tendance, et que dans cette tendance, ils en sortent dans le sens où ils n'arrivent plus à créer ce qu'on appelle une classe moyenne, et créer cette classe moyenne peut devenir dangereux pour quelqu'un qui défend, qui détient le pouvoir. Et dans un structure, dans un système des élections, une classe moyenne peut à un moment donné sanctionner ses dirigeants de manière très claire, et lorsqu'elle sanctionne ses dirigeants, et ses dirigeants sont amenés à pouvoir disparaître. Et donc, clairement, le système tel qu'il est, satisfait aussi les dirigeants congolais, malheureusement, dans ce système de périphérie et
force. Merci. Merci Bob Kabamba Ntumba Luaba, professeur d'université et coordonnateur du panel d'accompagnement du mandat du président de la République, Félix Tshisekedi, à l'Union africaine. Professeur, 61 ans après, la République démocratique du Congo a été, selon vous, quel type de gâchette de l'Afrique et du monde, l'image de la gâchette d'ailleurs, très optimiste, qui à l'époque avait valeur de décrire l'avenir de la RDC et aussi de situer la valeur même de la RDC. Quelle gâchette la RDC, selon vous, a-t-elle été pendant 60 ans de son accession à la liberté?
Laissez-moi d'abord saluer mes deux collègues, Bob Kabamba et Tshiembe Moïla Tridon. Je suis très heureux de les retrouver dans ces circonstances à la célébration de nos 61 ans d'indépendance. Et je crois que lorsque vous parlez de gâchettes, vous voulez faire allusion à l'image de François
Fanon.
Oui, je pense. Mais laissez-moi un peu saluer aussi la mémoire d'autres forces sociales, surtout d'autres figures historiques qui ont pu participer à la libération du Congo, à l'accession du Congo à l'indépendance, parce qu'il m'a semblé que vous avez surtout mentionné les acteurs politiques. Il y a eu bien des résistants, en commençant par Simon Kimbangu, Kimpavita, il y a Msiri, qu'on oublie beaucoup, chez les Bayeke, et la révolte des Tetela. Nous avons eu, on oublie beaucoup, les grèves de l'Union minière du Haut-Katanga dans les années, je ne sais plus, 47-48, où les ouvriers grévistes avaient été rassemblés au stade, on disait on allait régler leurs problèmes, et ils ont été proprement massacrés. Donc, il y a vraiment à réécrire l'histoire, faire une plongée historique. Évidemment, je n'irai pas aussi loin que TMB ou Bob Kabamba pour parler de la période léopoldienne. Mais laissez-moi au moins à ce niveau-là dire et qu'il y a eu également des résistances. Sinon, on n'aurait pas eu cette campagne de main coupée aux enfants, aux adultes. C'est parce qu'ils ne voulaient pas du travail forcé. Et il faudra qu'un jour, dans une démarche mémorielle, nous puissions vraiment rendre hommage à tous ceux qui ont résisté et qu'on semble oublier dans une sorte d'approche ou de lecture amnésique de l'histoire congolaise. Alors, je pense que pendant ces 60 ans de son histoire, notamment diplomatique, le Congo a été beaucoup plus objet que sujet des relations internationales. Objet parce que souvent,
se sont réunis les acteurs internationaux, les mêmes d'ailleurs, plus ou moins, que ceux qu'on avait conférence de Berlin, à laquelle Moïna Tshiembé a fait référence. Et nous avons eu plusieurs crises, la crise de la sécession katangaise, de l'indépendance donc, des mutineries, des révoltes, tout ça, et vous verrez des massacres, que c'est une histoire à répétition. Ce qu'on a vécu en 1960, on le revit encore plus ou moins dans ces années-ci. Et surtout, moi qui vous parle, j'étais encore au début de mon école primaire en 1960, et j'ai commencé par chanter la katangaise, j'étais à Lubumbashi, donc en pleine sécession, où il y avait un État avec sa monnaie, ainsi de suite. J'ai pu voir l'ONUC, et maintenant vivre la MONUC et la MONUSCO, l'ONUC comme enfant, et la MONUSCO, l'ONU, c'est les opérations des Nations Unies au Congo pour mater les rébellions, pour restaurer la paix, à l'accession à l'indépendance. Et si vous voyez la composition de l'ONU et la composition actuelle de la MONUSCO, vous retrouverez les mêmes composantes, et les mêmes pays et les mêmes influences.
Professeur, professeur,
on peut dire que l'histoire est un peu cyclique, mais nous évoluons. Nous évoluons. Je vois où vous voulez poser une question, mais mes maîtres bénédictins me disaient que nous avons deux oreilles et une bouche. Ouais. Et la bouche est seule pour parler une fois et deux oreilles pour écouter. Alors je vous écoute.
Oui, professeur, c'est juste pour justement relancer. Avec la présence notamment de la MONUSCO, on peut se dire que si cette mission est encore là, une autre mission de l'ONU, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas marché ou que le pays a échoué. Et si c'est le cas, qu'est-ce qui, selon vous, à favoriser cet échec et à court-circuiter tout l'avenir radieux auquel la République démocratique du Congo était promis. Les termes ne sont pas de moi, mais vous connaissez tous les termes tels que scandale géologique.
C'est de Lumumba, c'est de Patrice Emery Lumumba.
Voilà, les scandales géologiques.
Il avait prédit que l'avenir du Congo sera radieux. Mm-hmm. Et moi, je n'en doute pas, je ne suis pas sceptique, j'y crois.
Pourquoi, 61 ans après, la population ou les populations ont le sentiment que c'est un échec et que peut-être qu'on est même allé à reculons?
Mais c'est vrai, l'histoire d'un pays n'est pas un long fleuve tranquille ou inscrite toujours en ligne rectiligne. Même les États-Unis, même la France, tous les pays du monde, le Ghana, sont passés par des moments difficiles. Mais il faut surtout en tirer de l'expérience. Le problème, c'est quoi ? Pour pouvoir compter dans le concert des nations, il faut avoir une bonne diplomatie, il faut avoir une bonne armée, il faut avoir une bonne économie et de bonnes ressources humaines. Nous avons eu les années Kassavubu avec les multiples crises. Nous avons eu les années Mobutu avec la splendeur des années 70 due à la montée du cours des cuivres. Mais on l'a gaspillé, toutes les recettes dans des éléphants blancs. Et à ce moment-là, un zaïre valait 2 dollars. Mais on a fait des folies avec. Et puis vers la fin du règne de Mobutu, si on fait une lecture sérieuse, le Congo qui avait des grands diplomates très connus, le Congo qui avait une bonne armée, qui faisait même des interventions au Tchad et dans la région, au Rwanda, au Burundi et ailleurs, a fini par connaître une décomposition de son armée avec des généraux affairistes. Et même maintenant, on connaît encore le même problème si vous suivez de près des généraux affairistes. Et heureusement qu'il y a des efforts maintenant pour redresser cette armée. Avec une économie qui s'est décomposée, qui s'est corrompue. Mais maintenant nous faisons des efforts pour nous relever. J'ai parlé de Mobutu. Bon, Kabila père, vous connaissez dans quel contexte il est venu, avec quelles influences. Bon, Kabila fils qui a eu ses pays décomposés, mais la voix de la RDC n'était pas très audible. Nous étions encore des objets des relations internationales, de la diplomatie, avec Stan City, et ainsi de suite. C'est vrai, on a fait allusion à la porte ouverte, instaurée par Berlin. Mais je vous rappellerai que Mobutu lui-même disait que parmi les principes de la diplomatie congolaise, c'est notamment l'ouverture sur le monde ou au monde, la vocation africaine, que nous vivons maintenant avec la présidence en exercice de l'Union africaine par le président Tshisekedi. Mais je crois que actuellement tous les éléments sont réunis. Le Congo, la RDC, longtemps inaudible dans les relations internationales, qu'on entendait à peine et qui était très absent. Moi, j'ai dit, le Congo est maintenant de retour. Et je refuse ces discours négatifs qui ne semblent que voir ce qui est mauvais. Moi, j'ai dit, il y a des lueurs d'espoir. En économie, je vois s'élever toute une jeune génération d'entrepreneurs qui sont en train d'explorer des domaines nouveaux, du numérique, de l'économie verte, tout ça. Il y a quelque chose qui bouge dans ces pays. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir, et je vais m'arrêter par là, le Congo est devenu une plaque tournante de la diplomatie.
Merci.
Il n'y a qu'à compter le nombre des visites des hautes personnalités ici.
Merci.
Et la présence aussi sur la scène internationale par la voix du président Félix Tshisekedi qui s'est fait entendre partout.
Merci professeur Ntumba Luaba, vous avez effleuré un peu ce que nous allions faire à la fin de cette émission, c'est-à-dire des pistes de solutions ou des pronostics sur ce que la RDC peut devenir, mais vous compléterez peut-être tout à l'heure lorsque cette question sera posée de cette manière-là. Professeur Moïse Lachimbe, pour vous redonner la parole, vous allez réagir à ce commentaire de cet auditeur de Béni.
Je suis Doube Mwenemboka. J'appelle à partir de Béni au Nord Kivu. La RDC n'a pas pris la place qu'elle mérite en Afrique, celle du géant durant les 60 années passées, suite à l'immaturité politique des dirigeants d'une part et l'ingérence des puissances d'autre part. Si elle veut se confirmer en Afrique, elle doit se solidifier et se reconstruire de l'intérieur, être fort et ainsi prendre une place de choix en Afrique et même au monde.
Moïla Tchembe, votre collègue Bob Kabamba a plus ou moins effleuré aussi cet aspect, tout comme votre collègue Ntumba Luaba. Vous ne l'avez pas vous-même dit comme ça, mais qu'est-ce que vous pensez de la réaction de cet auditeur?
Ben, je pense que l'auditeur a parfaitement raison. Dans les malheurs du Congo, et ce que mon collègue le professeur Ntumba Luaba a tenté de rappeler sur ce qui se passe aujourd'hui, ce que Mobutu a fait pour que ce pays ne soit pas seulement cité en mal, qu'il soit cité en bien. Il faut se souvenir du premier sommet de l'OUA à Kinshasa en 1967, alors que Mobutu était considéré comme paria. On l'accusait à tort ou à raison d'avoir participé à la mort de Lumumba, pactisé. Tous les pays du bloc communiste n'en voulaient pas. Et même les pays africains, notamment le Ghana, la Guinée, l'Égypte, ne voulaient pas le voir. Mobutu a dû mobiliser l'appareil diplomatique à sa charge pour pouvoir obtenir par explication, par pression diverse de ses alliés occidentaux notamment, à convaincre une bonne partie des pays africains que même si son nom était cité dans la mort de Lumumba, il n'en a pas été l'auteur. Bien sûr, le coup d'État contre Nkrumah et d'autres dirigeants a fait que petit à petit, Mobutu a réussi à avoir le soutien des pays africains qui ont accepté pour la première fois qu'un sommet soit tenu à Kinshasa, le sommet de l'OUA. Et ensuite, Mobutu a utilisé l'appareil diplomatique du Congo pour prendre la main à l'extérieur, notamment vers les pays du bloc de l'Est, notamment l'Union soviétique. Mobutu est allé en Chine. Mobutu a fait le tour de ce qu'on peut compter jadis, que ce soit Belgrade, qui était la capitale des non-alignés depuis 1963, pour leur dire qu'il est là et qu'ils doivent compter avec le Congo, ensuite le Zaïre. Tout ceci est connu, si vous devez rappeler, par exemple, l'épopée de l'authenticité, le recours à l'authenticité avec la pression mise sur le Tchad, sur la République centrafricaine, sur le Togo, qui ont suivi Mobutu dans la tenue vestimentaire, dans une certaine éloquence de recherche dans les passés de leur pays, quelques ingrédients liés au pouvoir traditionnel. Tout ça c'est connu, Mobutu avait même obtenu de Senghor, Dieu sait combien, cet intellectuel brillant président du Sénégal, qui a osé dire que le recours à l'authenticité était la mère de la négritude. Pour Mobutu, c'était une sorte de reconnaissance générale par cet homme éminent, intellectuel achevé.
Merci, professeur.
Ça, c'était la page plus ou moins éclairée de la diplomatie de Mobutu. Et comme toujours, la diplomatie, c'est un outil au service du prince. Il y a des moments où le prince qui l'utilise peut l'utiliser à son propre profit.
Merci.
Ce que je suis en train de dire, c'est une mobilisation de moyens diplomatiques au service de Mobutu pour faire asseoir son pouvoir, et c'est ce qu'il a fait. Mais, en même temps, cette capacité à faire asseoir sa diplomatie, d'abord pour lui-même consolider son pouvoir, ça lui a permis aussi de faire ressortir l'image de la République démocratique du Congo, jadis le Zaïre. Et lorsque le Congo a été le premier pays à envoyer une équipe de football au mondial de l'époque en 1974, si mes souvenirs sont exacts, c'était pour la première fois. Et lorsque le combat Mohamed Ali a été organisé contre Foreman à Kinshasa, beaucoup de collègues, j'avais un collègue camerounais, aujourd'hui professeur des universités, qui me dit quand il était tout petit, et qu'il entendait dire qu'il y a ce combat au Zaïre, il pensait que le Zaïre, c'était un pays développé en dehors de l'Afrique.
Merci.
Donc, il y a eu de belles pages qui ont été écrites, même pour le souci d'un homme d'État, pour ses propres intérêts, mais ça a permis aussi le rayonnement du Zaïre. C'était un moment assez fantastique pour ceux qui l'ont connu, évidemment.
Mais
l'immaturité des Congolais, mais ça c'est vraiment le point d'ancrage dont on voit les conséquences de mon collègue, le professeur Toumouraba et Bob Kabamba ont parlé tout à l'heure. Les Congolais, si malheur il y a dans ce pays, pourquoi y a-t-il une sorte de non-corrélation entre les potentialités économiques du pays et la pauvreté des Congolais?
Merci, professeur.
Il y a l'exploitation. Je voudrais finir sur ce point, permettez. Même s'il y a exploitation extérieure, extraversion, il y a une part évidente des Congolais dans les malheurs de leurs compatriotes. Parce que vous savez, lorsque Mobutu prend le pouvoir, Mobutu a comme image le roi des Belges. C'est-à-dire le règne. Lorsqu'on veut régner sur le pays, qu'est-ce qui compte? C'est le mandat. Je veux tenir combien de mandats? Et lorsqu'on a l'option des mandats, on ne se préoccupe pas de l'avenir de la population. On ne se demande pas le pouvoir, ça sert à qui, ça sert à quoi? Comment rendre meilleur le pays, faire vivre les gens, leur donner de quoi manger boire? On se préoccupe de son sort, régner combien de temps? Et par conséquent, il faut acheter les consciences. La question de détournement des deniers publics de corruption. Mais la corruption dans ce pays de la République démocratique du Congo, c'est la règle.
Merci, professeur Moïla.
Pas rompre, c'est l'exception.
Merci, professeur Moïla Tchiembe. Pour vous, professeur Bob Kabamba, cette réflexion de cet auditeur de Kinshasa.
C'est Thomas Emmanuel Nkashama à Kinshasa, c'est le Mbao. En 61 ans, la République démocratique du Congo a joué un rôle majeur en Afrique malgré ses tumultes et impasses internes. En 61 ans d'indépendance, la RDC a connu des présidents qui ont su porter haut son étendard. Du temps du président Mobutu, la RDC, Zaïre à l'époque, était véritablement le centre d'Afrique. Elle a appuyé les forces militaires étrangères, elle a prêté de l'argent à d'autres nations qui étaient dans le besoin. Le discours du maréchal à l'ONU en 1970 en est une épreuve éloquente. Le président Moussa Laurent Désiré Kabila manifestera sa volonté de redonner la force à notre pays, notamment dans sa politique monétaire et les rejets de toute force militaire nuisible externe. Le président Kabila Joseph a joué aussi un rôle très décisif. ces prises de décision face à l'ingérence étrangère ayant abouti à l'autofinancement des élections de 2018 est une preuve palpable de son intérêt à construire un État fort subvenant lui-même à ses besoins. Le président actuel et président de l'Union africaine est toujours sur la même lancée. Ses multiples collaborations, aussi bien avec les voisins que d'autres pays à travers le monde.
Professeur Bob Kabamba.
Oui, merci beaucoup pour cette question. Donc, vraiment, c'est une question fondamentale qui peut même peut-être une thèse de doctorat sur ce sujet. Donc, mais en résumé, ce qu'il faut dire, hein, au-delà de ce que mes collègues viennent d'ajouter, c'est qu'il y a eu aussi le contexte international qui a joué pour beaucoup. Il ne faut pas oublier que Mobutu arrive dans un contexte de guerre froide où le Congo est quand même en jeu entre le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Et Mobutu, en arrivant au pouvoir, il bascule de manière fondamentale et de manière claire dans le bloc occidental contre le bloc de l'Est. Et par rapport à ce basculement, c'est aussi l'appui que va lui apporter toute la communauté internationale pour consolider son régime et ainsi consolider le socle de l'Occident sur le continent africain. Je pense tout le contexte de guerre qui a eu un peu partout avec la guerre en Angola qui était l'une des premières guerres, on va dire, idéologiques sur le continent africain, entre d'une part l'URSS qui soutenait une partie un des protagonistes et les États-Unis qui soutenaient l'autre partie, l'autre protagoniste de la guerre de l'Angola et où le Zaïre de l'époque Mobutu a joué un rôle fondamental. Et ça a été aussi Mobutu qui a su jouer par rapport à cet enjeu stratégique de son pays, pour pouvoir consolider son régime et pour pouvoir peser effectivement dans les relations internationales et surtout dans les relations africaines. Ne pas oublier aussi le fait que Mobutu a été aussi parmi les piliers justement de la politique occidentale au niveau du continent et en contrepartie, il devait recevoir donc les appuis que l'on connaît. 1990, on a basculement avec la fin de la guerre froide, donc l'enjeu géostratégique du continent du Congo Zaïre à l'époque tombe aussi en même temps. Et quand ça tombe en même temps, ben, on se rend bien compte qu'à ce moment-là, le Congo perd beaucoup au niveau de sa dimension internationale, perd beaucoup au niveau même de son aura au niveau international, d'où les différentes guerres que l'on connaît. Et alors maintenant, actuellement, ce que l'on peut dire, ce que l'on regarde effectivement les relations au niveau international, on se rend bien compte qu'il y a, au fait, le Congo n'a pas, au fait, une ligne claire par rapport à l'international. Bête exemple que je vais essayer de vous donner pour faire comprendre ça, c'est que lorsque l'on a un pays qui vit dans une région, ce pays est identifié dans une région déterminée. Mais lorsque vous regardez le Congo, vous allez vous rendre compte que le Congo n'est pas vraiment identifié dans une région donnée. Vous parlez de l'Afrique centrale? Oui, le Congo est en Afrique centrale du fait qu'elle est membre de la CEAC. Vous voulez parler de l'Afrique australe? Oui, le Congo est en Afrique australe puisque le Congo est membre de la SADC. Vous voulez parler de l'Est? Oui, le Congo est en train d'être candidat pour aller à l'Eastern African Community pour pouvoir intégrer cette intégration régionale. Oui, à l'Est aussi puisqu'il y a aussi la CPGL qui est là, qui est aussi une organisation régionale et qui fait en sorte maintenant que le Congo, le tropisme du Congo, on ne sait pas très bien quel est le tropisme du Congo. Et de la même façon que l'on regarde par rapport même à cette problématique, le Congo est aussi membre de plusieurs autres organisations régionales qui font en sorte que on n'arrive pas nécessairement à avoir une ligne claire par rapport à une diplomatie qui respecte, on va dire, les équilibres régionaux. Je pense aussi sur cette question-là pour pouvoir y arriver et aller dans la rationalisation. C'est-à-dire, où est-ce que le Congo a le plus à gagner? Est-ce que le Congo a le plus à gagner dans CEAC, CPGM, SADC, East African Community ou pas? Et en fonction de ces différentes questions, définir une politique et se tenir à cette politique. Et j'ai l'impression que c'est le combat actuel qui est en train de se passer au niveau de la diplomatie congolaise avec la présidence de l'Union africaine, c'est de donner justement au Congo une directive, une ligne qui va permettre aux Congolais de pouvoir s'ancrer dans une dynamique d'une diplomatie régionale, continentale et internationale.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Ntumba Luaba, un peu le même exercice. Hein. Pour vous, ce commentaire qui nous vient de Salomon de Bounia.
Moi, c'est Salomon Sarekonga Okumu, depuis la ville de Bounia, province de l'Ituri. À mon humble avis, la RDC porté à la présidence de l'Union africaine au lendemain de l'alternance politique pour l'empêcher de prendre des mesures draconiennes contre tous les pays voisins qui, depuis longtemps, sèment des troubles et déstabilisent la RDC. Et cette dernière demeure toujours un des pays les plus pauvres en Afrique et au monde, n'en parlons même pas. Un pays qui est systématiquement tant par les nations voisines que par les autres à travers les multinationales. Dans la ligne où vont les choses, maintenant, l'avenir de la RDC ne rassure pas. Pour occuper une place de choix dans le concert des nations, il faut promouvoir des valeurs démocratiques. Merci.
Alors, professeur Ntumba Luaba, vous préférez rester optimiste, vous l'avez dit, hein, vous n'aimez pas beaucoup le pessimisme, mais lorsque à ce bel avenir dont a toujours été promise la République démocratique du Congo, le scandale géologique, la gâchette de l'Afrique et peut-être même du monde, on n'a pas peut-être eu le courage de le dire ainsi, comment voyez-vous l'avenir de la RDC et quelles armes pourrait utiliser le pays pour rassurer peut-être cet auditeur pour gagner beaucoup plus de place positive et jouer un rôle incontournable dans le concert des nations.
Je voudrais revenir un peu au dernier développement de mon collègue Bob Kabamba. Pour relativiser un peu, je suis d'accord avec lui, il y a une rationalisation nécessaire de l'appartenance, de la multi-appartenance du Congo à plusieurs organisations régionales. Je lui signale en passant que c'est un problème tout à fait général, hein. Et si on va un peu plus haut dans l'analyse, on pourra même parler du dédoublement en Afrique centrale, les mêmes pays qui sont à la CEMAC et la CAC, et il y a dédoublement en Afrique de l'Ouest. La CDAO et l'IMEOMA, ça pose aussi problème. Il y a là des doublements, il y a rationalisé, mais tout en précisant que le président actuel a trouvé cette situation-là et c'est une préoccupation. Nous voulons rationaliser. La seule chose qui a été ajoutée, c'est notre adhésion actuelle à l'East African Community. Mais si vous voyez, ça ne vient que devenir une formalisation juridique des faits, parce que en droit on dit que les faits précèdent le droit. Monsieur Bob Kabamba qui vient du Kivu, monsieur où il a toujours vécu, son Kivu natal, et qui il aime le Congo, mais il aime aussi beaucoup le Kivu, c'est très bien que toutes les relations économiques, tout le commerce, pratiquement, même les déplacements d'hommes, des biens, des services de l'Est de la RDC, en commençant par la province orientale, l'Ituri, le Nord Kivu, le Sud Kivu, jusqu'au Maniema, mais se tourner vers ces pays-là qui appartiennent à l'East African Community. Et en causant avec les hommes d'affaires de nos provinces-là, et ces hommes d'affaires m'ont toujours dit, professeur Ntumba Luaba, nous avons besoin d'adhérer à l'East African Community. Alors, ensuite, on ne pourra jamais déplacer le Congo de sa centralité. Il est au centre de l'Afrique, il est appelé à jouer un rôle pivot.
Justement,
un rôle de plaque tournante.
Justement, professeur,
je reste tout à fait optimiste.
Oui.
Les choses bougent. La situation de l'Ituri d'aujourd'hui n'est pas la même que celle que j'ai connue en 2001-2003, lorsque je suis allé en Ituri pour la pacification et que j'y ai été même pris en otage. Donc il y a une évolution, il y a une stabilisation, et le Congo maintenant, qui faisait l'état de pillage, d'invasion, et ainsi de suite, le Congo joue un rôle maintenant très actif dans la stabilisation régionale. Qui se serait imaginé qu'à l'heure actuelle, le Congo, avec la présidence en exercice de l'Union africaine, puisse être même le médiateur dans la tension ou le conflit qui oppose l'Éthiopie l'Égypte et le Soudan à propos du grand barrage de la Renaissance éthiopien. C'est le Congo qui gère ce dossier.
Alors, professeur Toumbalwa, nous n'avons pas beaucoup de temps. C'est très intéressant toutes ces informations que vous nous donnez. Nous sommes en train de clôturer et nous voulons entendre votre dernière intervention. Quelles sont les astuces que la RDC peut encore aujourd'hui utiliser pour davantage jouer son rôle de centralité et peut-être pourquoi pas être le pays numéro un de référence en Afrique?
Nous sommes appelés à être un pays de référence. Il y a un auteur que j'aime bien, que vous n'avez pas cité, évidemment. Il y a le leader Kwame Nkrumah qui disait que le Congo est appelé à devenir vraiment une véritable capitale panafricaine. Mais il y a l'égyptologue Cheikh Anta Diop qui voyait déjà dans le Congo un poumon économique, un poumon industriel, un poumon énergétique avec Inga, un poumon environnemental avec toutes ces forêts. Mais je crois que le grand problème, c'est la bonne gouvernance du pays. Depuis les indépendances à ce jour, avoir une bonne armée, une bonne formation humaine, une éducation qui est aux normes actuelles, l'enseignement du Congo est vraiment dépassé, déchué, il ne répond plus aux défis actuels et de demain, une bonne maîtrise du territoire national, une bonne administration. Et enfin, de bons gouvernants, j'insiste beaucoup, qui ne sont pas seulement préoccupés par leurs avantages personnels, mais qui soient au service du peuple, pas de gouvernement. Nous avons, depuis l'indépendance, nous avons une élite politique égoïste, égocentrique. Et je vous donnerai comme exemple que le premier parlement, à l'accession à l'indépendance. Une de ses premières sessions était consacrée à l'augmentation de ses primes, à la question de ses primes et tout ça. Est-ce que nous ne vivons pas ça encore aujourd'hui? Est-ce que les préoccupations ne sont pas d'abord les avantages à avoir, à acquérir? Je ne voudrais pas parler d'un récent dossier, mais je voudrais dire, lorsque j'apprends qu'il y a des gens qui ont manipulé des cartes de crédit de 50 000 dollars par mois, est-ce que vous savez qu'avec 50 000 dollars par mois, on paye le salaire mensuel des 32 à 35 professeurs ordinaires à l'université?
Merci,
et
professeur.
C'est une seule personne.
Merci, professeur Toumbalwa. C'est vraiment très intéressant. Nous aurons d'autres occasions pour continuer à développer avec vous, professeur Bob Kabamba. Nous sommes en train de conclure notre émission. Vous indexiez tout à l'heure l'absence de politique d'harmonisation des intérêts de la RDC. En plus de ce que vient de dire votre collègue Toumbalwa, avez-vous quelque chose à ajouter comme astuce que la RDC peut utiliser pour améliorer sa place et son rôle dans les jours à venir?
Merci pour la question. Donc, mais c'est que je peux confirmer. Donc, un, la rationalisation au niveau des relations régionales permet justement de pouvoir avoir une logique. Et cette rationalisation se base à toujours des fondements. Ou bien c'est des fondements idéologiques, ou bien c'est des fondements historiques, ou bien c'est des fondements commerciaux, comme vient de le dire mon collègue Toumbalwa. Et donc, c'est en fonction de ça que l'on peut décider de pouvoir imprimer une direction par rapport à une politique internationale. Lorsque cela est plus clair à ce niveau-là, vous allez vous rendre compte qu'à tous les autres niveaux, ça va être encore beaucoup plus clair. Et la voix, je pense, de la RDC sera mieux entendue et sera plus claire. Et je pense, comme je l'ai dit tout à l'heure, que le président actuel semble aller dans cette voie, même si il y a que 2 ans qu'il est là, mais semble aller dans cette voie de pouvoir avoir non seulement une rationalisation, mais aussi d'avoir une voix qui porte sur un message clair au niveau international.
Merci, professeur Bob Kabamba. Professeur Moïse Latchimbe, vous êtes resté longtemps sans parole, mais rassurez-vous, l'équilibre de parole a été respecté. Quel pronostic donnez-vous à la RDC de demain et selon vous, que doivent faire ces dirigeants pour développer le pays et pour le mettre vraiment au firmament?
Non, l'avenir du pays, pour paraphraser Patrice Emery Lumumba, l'avenir est grand. La diplomatie congolaise peut être portée demain. Le rayonnement du Congo est possible. Encore faut-il changer radicalement la nature du pouvoir congolais. Parce que tout se joue au niveau du pouvoir. Si on ne change pas notre capacité à nous gouverner nous-mêmes, pour se projeter dans le futur, il n'y a pas d'avenir qui vaille pour le Congo.
Merci professeur Moïla Tiembe, Bob Kabamba et Toumba Luaba pour votre disponibilité à cette émission. William Lungamba, Guimate, Kéline Kouté m'ont aidé à préparer cette émission spéciale. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Dialogue entre Congolais, édition spéciale 30 juin 2021. C'est fini pour ce soir. Merci de votre attention. Au revoir.